Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est parti pour votre histoire. Et bien maintenant, on retourne en Afrique, hein, il y a trop longtemps. Je vais vous lire des pages de l'ouvrage de René Vautier qui présente le film Afrique 50. Film qui a été tourné en 1949. En 1949, donc, la Ligue de l'enseignement a proposé à René Vautier la réalisation d'un film destiné à montrer aux élèves des lycées et collèges de France, de Navarre et d'autres lieux comment vivent les villageois d'Afrique occidentale française. René Vautier, qui parle à la première personne, nous dit « Je dois accompagner une équipe de routiers éclaireurs de France, ramener des images sur la réalité africaine, en faire le montage. L'équipe est diversifiée, un ethnographe, un médecin, un enseignant, un photographe, un étudiant des beaux-arts et un gars de Sciences Po. Tous ces jeunes gens devraient ramener, chacun en sa matière, des éléments pour une exposition qui circulerait dans l'hexagone de lycée en lycée. Moi, je devais donc ramener un film, un petit film d'enseignement en 16 mm. Un seul impératif, prendre des images reflétant la réalité quotidienne du paysanat africain. » Alors, une petite note, en 1948, René Vautier sort premier de sa promotion de la prestigieuse École de cinéma national, l'IDEC, Institut des hautes études cinématographiques. Donc l'impératif était de prendre des images reflétant la réalité quotidienne du paysanat africain. C'était dans mon contrat, noir sur blanc et pas l'inverse. J'avais 21 ans. Libre, avec ma caméra, sans idée préconçue. Marseille-Dakar, Dakar-Bamako. Et là, un magnifique camion pour l'équipe, mis à notre disposition par le gouverneur du Soudan français. On me pressait de filmer les ananas du jardin de l'office du Niger, alors que moi, je braquais ma caméra sur des galériens noirs qui manœuvraient à bras les énormes vannes d'une écluse du barrage de Markala-Sansandingue. Lorsque j'ai demandé à un ingénieur, blanc bien sûr, pourquoi le fonctionnement des vannes de ce barrage, qui fournissait de l'électricité dans toute la région, n'était pas électrifié, il m'a répondu en riant « Les nègres coûtent moins cher » et m'a indiqué le prix payé par nègre et par jour. Je ne m'en souviens plus, mais c'était très, très bas le salaire. Ils n'ont pas de syndicat ? Oh, il y en a bien eu, deux ou trois qui ont essayé de faire de la propagande pour en créer un. Mais on leur a monté une affaire et ils en ont pris pour 3 ans. Je ne comprenais pas. 3 ans de quoi ? 3 ans de prison. Nous avons fait porter un sac de riz de l'administration dans leur case. Puis on a signalé un vol. On a retrouvé le sac de riz chez eux et crac, 3 ans. Je lui ai dit que je réprouvais ces méthodes fascistes. Il l'a très mal pris. Nous nous sommes un peu empoignés, ce qui a entraîné l'intervention d'un directeur adjoint de l'office du Niger. « Oh mon Dieu, deux blancs, et ils se battent devant les nègres, c'est indigne, indigne !» Notre chef de groupe, qui, avec une gueule longue d'une aune, m'a dit « Je viens de discuter avec le représentant du gouverneur, il doit faire un rapport, on risque de nous enlever le camion !» Moi aussi, René, ça me surprend, cette attitude des Blancs vis-à-vis des Africains. Mais ils vivent là depuis longtemps, leur façon de se conduire doit avoir des raisons. Reconnais quand même que les ingénieurs sont bien sympathiques. Sympathiques ? Vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de nous. Et l'ensemble du groupe des Beaux-Arts à Sciences Po, en passant par la médecine et l'ethnographie, a fait chorus. pour vanter la gentillesse à notre égard des colonialistes locaux. Sauf un, Raymond Vogel, géographe de formation et cinéaste de vocation, et qui était aussi écœuré que moi, et qui m'a dit « Avec ta caméra, il faut que tu sois diplomate aujourd'hui, pour mieux dénoncer demain. » Tout a basculé lorsque le gouverneur m'a fait porter le texte du décret régissant le cinéma en Afrique noire, par un gendarme chef, blanc puisque chef, qui avait ordre de me faire signer un papier par lequel je reconnaissais que j'avais reçu avis émanant du gouverneur du Soudan français de la législation régissant les prises de vue cinématographiques en Afrique occidentale française afin d'avoir à m'y conformer. Et j'étais, en outre, priée de remettre toutes les pellicules tournées par moi-même à ce jour en violation de cette législation. Texte du décret du 11 mars 1934, signé du ministre des colonies de l'époque, un certain Pierre Laval. Or, nous étions en 1949. Pierre Laval avait été fusillé en 1945 pour ses activités pro-nazies. Et j'avais à la même époque été décoré pour mon opposition active à la politique menée par Pierre Laval. Voici des extraits de ce décret régissant les prises de vue cinématographiques en Afrique occidentale française. Article 8, titre 2. Toute personne désireuse de procéder à des prises de vue cinématographiques ou à des enregistrements sonores adressera une requête écrite au lieutenant-gouverneur de la colonie sur le territoire de laquelle elle se propose d'opérer. À cette requête, qui contiendra tous les renseignements utiles sur l'état civil et s'il y a lieu sur les références professionnelles de l'entrepreneur, celui-ci joindra le scénario qu'il projette de filmer. La commission de contrôle émettra après examen un avis sur l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation sollicitée. Elle indiquera, dans le premier cas, s'il y a lieu de supprimer certains passages du film projeté. Article 9. Si l'autorisation est accordée, l'entrepreneur fixera, après entente avec le chef de la circonscription administrative intéressée, le jour, le lieu et l'heure auquel il sera procédé aux prises de vue et aux enregistrements sonores, de telle sorte que le fonctionnaire susvisé ou son délégué puisse être sur place à effet de vérifier si l'opération réalisée est exactement conforme à celle qui a été autorisée. Titre 3. Ces prescriptions ne font pas obstacle aux mesures de police locale qui peuvent être prises par les chefs des circonscriptions administratives. Il faut rester calme, en toutes circonstances. Mais j'ai 21 ans. Je suis devenue cinéaste pour dire vrai sur le monde. Comme dit Éluard, je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai. Et un flic vient de me fourrer entre les mains un décret de Pierre Laval, ce Pierre Laval fusillé 4 ans avant pour collaboration, qui m'interdit de filmer ce que je vois. Alors j'ai eu tort, c'est vrai. J'ai attrapé les papiers, le décret, le reçu à signer, et je me suis mis à injurier le gouverneur, l'administration coloniale, les faiseurs de décrets et ceux qui les appliquent. Le policier prenait note, m'interrompait parfois quand il n'avait pas bien compris, me disant entre deux bordées d'injures « C'est bien à l'adresse du gouverneur, n'est-ce pas ?»«
Bien sûr. » »«
Alors répétez, je vous prie, un peu plus lentement. Fasciste, vous maintenez ? Fasciste ? » ?»« Bien. » »« Des représentants qui ? Quoi ? » qui salissent le peuple de France ?
Oui !
Je vais transmettre à qui de droit. J'étais dans la résistance, moi aussi, et entre nous, je vous remercie de me donner l'occasion de leur dire tout ça. Maintenant, si vous permettez un conseil, vous voulez continuer à tourner votre film ? Ne soyez plus à Bamako demain matin. Message reçu 5/5. Dans la nuit, nous avons quitté l'hôtel, Vogel et moi, en catimini. Nous avions 260 francs CFA à nous deux, ce qui faisait à l'époque 130 francs français. Une petite caméra de 16 mm amateur, une soixantaine de bobines noires et blanches de 30 mètres, voilà le viatique dont nous disposions pour tourner contre vents et marées, Afrique 50, qui devait être le premier film militant anticolonialiste français. Mais à l'époque, je ne le savais pas encore.
La conviction, c'est le pouvoir du doute. Quand l'autre préfère mater un match de foot pour se peindre la gueule comme faisaient les païens, mais te juge trop dangereuse pour de bons citoyens. Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie?
Dans ce milieu, on avait renoncé à prendre des gants. On voyait les choses comme elles étaient. La surexploitation de l'Africain était parfaitement admise et considérée comme nécessaire pour la bonne marche du système. Simplement, il ne fallait pas que l'information sur la réalité parvienne en France ou ailleurs. D'où le maintien en réserve de ces articles du décret Pierre Laval, c'est-à-dire l'interdiction de filmer la réalité. Mais lorsque la censure dévoile ses batteries aussi crûment, elle pousse tout être normalement constitué à ne pas tenir compte de ces diktats. Seulement, lorsqu'on brave les interdits de ce qui constitue la loi, mettant ainsi un pied dans l'illégalité, l'enchaînement est inévitable. Les gardiens de l'ordre interviennent et au nom du bon sens, on leur résiste pour défendre ce que l'on sait juste. Et pour moi, le simple fait de ne pas vouloir me plier à ce décret de Pierre Laval allait être à l'origine de 13 inculpations et d'une condamnation à 1 an de prison que j'ai effectuée. Résumons les faits, me dira des mois plus tard le juge d'Argenteuil chargé de l'instruction. À partir de cette contestation d'un décret ayant force de loi, vous avez récidivé en toute connaissance de cause. Ça veut dire que j'ai continué les prises de vue. Vous vous êtes dérobé aux recherches motivées de la maréchaussée. Vous avez insulté des représentants de la loi. Vous avez fait état d'une mission imaginaire. J'aurais dit que je prenais ces images au nom des jeunes de France qui veulent la vérité. Vous avez pratiqué violence et voies de fait sur un représentant de l'autorité, un inspecteur de police, blanc, d'Abidjan, pour saisir papier et pellicule impressionné, était tombé par la fenêtre quand je l'avais surpris et s'était cassé un bras. Vous avez quitté frauduleusement le territoire sous contrôle français. J'avais dû, pour éviter d'être arrêté, passer en douce la frontière de l'actuel Ghana, où un certain Kwame Nkrumah m'avait aidé à remonter vers la frontière nord qui donnait sur le Burkina Faso. Vous êtes entré frauduleusement en territoire sous contrôle français, au Burkina Faso, en sortant du Ghana. Vous avez provoqué des troubles d'ordre public pour vous évader de l'immeuble de la sûreté de Bobo Dioulasso. Vous avez usurpé titre et fonction pour utiliser un véhicule administratif dans le but de vous soustraire à la justice. Je dois reconnaître que ces accusations étaient toutes plus ou moins fondées, mais découlaient logiquement les unes des autres. C'était l'engrenage. À partir du moment où je refusais de reconnaître valable un décret de Pierre Laval, je glissais inévitablement sur la pente savonneuse de l'illégalité. Jusqu'où? C'est là que la chose devient assez ubuesque.
Les perles de Jacmel, oui, au goût de la belle, tous les rois, même les sous, ont leur joli bibelot. Le cuir du Chili se retrouve à Paris, le café du Uruguay se déguste à Broadway, mais le fer de Managua perce le cœur des USA. Mes frères coupent la canne et leur machette dessus, du matin jusqu'au soir, et du soir au matin en Dominicanie.
Je suis à Bamako avec ordre d'y rester en attendant une décision du gouverneur. Mais j'ai aussi une mission. Ramener des images pour la Ligue de l'Enseignement, à Paris, sur la vie réelle des villageois africains. Alors, Raymond Vogel, m'accompagnant, je disparais de Bamako avec très peu d'argent et un tout petit matériel de 16 mm. Le journal du jour annonçait des émeutes en Côte d'Ivoire. Nous choisissons donc de rallier Abidjan. L'administration coloniale imputait la responsabilité des émeutes à un dangereux agitateur nommé Oufouette Boigny et à son âme damnée, Wedzine Koulibaly. Félix Oufouette Boigny était médecin, mais aussi chef de canton, propriétaire de plantations et leader syndical. Tous les mouvements politiques révolutionnaires en Afrique sont partis des mouvements syndicaux. Il fut élu en 1945, alors que le gouvernement français décidait d'ouvrir un peu l'Assemblée constituante à un député colon d'une part et à un autochtone d'autre part. Wedzine Koulibaly, lui aussi, sera élu député l'année suivante au Parlement français. Toute l'optique du film sur la vie réelle des villageois d'Afrique occidentale française basculait. Pratiquement, nous rejoignions la dissidence, simplement par honnêteté professionnelle et parce que la censure était trop bête. L'aventure allait durer beaucoup plus longtemps que prévu, presque un an. Nous allons parcourir, Raymond et moi, l'actuel Mali, une partie du Burkina Faso, toute la Côte d'Ivoire du nord au sud, et c'est à Abidjan que nos chemins vont diverger. Raymond va rentrer, et moi, poursuivi par la justice, je vais remonter le Ghana jusqu'au Burkina Faso, être arrêté à Bobo-Dioulasso, libéré par un mouvement populaire, caché chez les Dogons, transféré sur Dakar. Je crois que ce qui m'a soutenu pendant tout ce temps-là, c'est la rage. Les conditions de vie n'étaient pas faciles. Sans argent, sans médicaments, nous allions devenir de vrais laboratoires de maladies coloniales. Je m'étais battue contre les occupants nazis et je trouvais des Français qui maintenaient en Afrique un ordre semblable à celui que les dirigeants allemands avaient voulu imposer chez nous. On me volait mon image de la France. C'est dur à admettre à 21 ans.
Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie?
La période était assez agitée. C'était l'époque où, en Côte d'Ivoire, les agents de l'administration française poursuivaient les agitateurs du Rassemblement démocratique africain. Lequel Rassemblement démocratique africain était une fédération de partis politiques africains fondée en 1946 à Bamako par Félix Oufouette Boigny et Modibo Keïta, qui sera le futur président du Mali. Le RDA était affilié au Parti communiste français jusqu'en mai 1950. Des bandes d'excités blancs organisaient la chasse aux avocats des accusés politiques, hurlant au lynchage, menaçant des pires sévices les avocats des accusés africains. Maître Blanche Matarasso, Maître Pierre Braun, Maître Henri Douzon, qui avait déjà été laissé pour mort par les colons blancs dans la forêt malgache au moment du massacre de 1947, perpétré bien entendu par les troupes françaises. C'est dans cette atmosphère que je brandissais ma caméra, en clamant à tout vent que je filmais tout, que j'allais projeter ça en France pour montrer aux jeunes de France ce qui se faisait en Afrique en leur nom. J'ai mis un certain temps à comprendre que les responsables ne se limitaient pas à un petit nombre de crapules, mais que c'était le système entier qui était pourri. Il faut bien se mettre dans la tête la situation qui prévalait à l'époque en Afrique occidentale française, et en particulier en Côte d'Ivoire. Territoire d'outre-mer, elle avait son gouverneur, et depuis la fin de la guerre, des députés africains, dont Félix Oufouette Boigny, chef de file du Rassemblement démocratique africain, qui deviendra le premier président de la République de Côte d'Ivoire, officiellement indépendante, le 7 août 1960.
Le rhum jamaïcain dans le gosier londonien, le riz du Vietnam, demande à l'oncle Sam s'il l'a bien digéré. Tu me prends tout pour dessous, toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plus, c'est fini les colonies, fini le temps du mépris.
Félix Houphouët-Boigny va rompre avec les communistes français en 1950, sous la pression, moi j'appellerais ça plutôt le chantage, on y reviendra. Sous le chantage, notamment du ministre de la France d'Outre-mer, un certain François Mitterrand. Ces députés s'étaient classés à la Chambre des députés à Paris comme apparentés au Parti communiste. Ça suffisait pour susciter la haine des colons, la méfiance du gouvernement et de son représentant, le ministre de la France d'Outre-mer, François Mitterrand. En outre, Félix Houphouët-Boigny, responsable du syndicat des planteurs africains, avait protesté au nom de son syndicat contre le fait que les achats officiels de café ou de bananes en période de surproduction favorisaient les planteurs d'origine européenne. Nulle réponse n'avait été faite à sa protestation. Alors, il avait déclenché une grève des achats de la population africaine visant tous les produits d'origine européenne et organisé avec le Rassemblement démocratique africain le refus du travail des Africains dans les compagnies et entreprises gérées par des Européens. L'influence d'Houphouët, médecin, mais aussi descendant de la reine des Baoulés, qui s'était, d'après une légende ivoirienne, sacrifiée pour son peuple. Son influence à Houphouët et celle de l'organisation du Rassemblement démocratique africain qu'il avait créé en Côte d'Ivoire était telle que les recettes des grandes compagnies gérant les magasins des villes et les comptoirs de brousse avaient diminué de 90% et que les sociétés européennes gérant les plantations ne trouvaient plus de main-d'œuvre pour la cueillette de leurs produits. La Côte d'Ivoire, sous l'effet de la grève, retournait à une autarcie terrienne que le gouverneur entreprit de briser. Ça ruinait le commerce. Une mesure d'apparence anodine fut prise en haut lieu. Les impôts seraient obligatoirement payés en espèces et exigibles sans délai. Or, une partie importante de la population africaine, hors des villes, s'acquittait des impôts en apportant des marchandises, des produits de cueillette, qui étaient soit évalués directement par le collecteur d'impôts, soit achetés par des représentants des sociétés coloniales qui se trouvaient auprès du lieu de collecte des impôts. Sur ordre des autorités, les représentants des sociétés fermèrent provisoirement boutique et les collecteurs firent savoir qu'ils ne pouvaient accepter d'être payés en nature, mais seulement en espèces, en argent liquide. Pour avoir de l'argent, il fallait travailler pour les sociétés européennes. Devant cette volonté manifeste de briser la grève des Africains en les obligeant au travail pour payer l'impôt, certains chefs de village préconisèrent d'étendre la grève à l'impôt lui-même. Et le gouverneur lâcha à travers la brousse des colonnes punitives pour châtier les villages qui ne payaient pas d'impôt. En descendant de Bamako vers Abidjan, nous avons suivi, Raymond Vogel et moi, le trajet d'une de ces colonnes punitives. Nous ignorions le pourquoi de ces représailles. Nous n'en voyons que le résultat. Villages brûlés, habitants massacrés, des corps abattus pourrissant au soleil, des oradours qui s'appellent Dimbroco, Kétékré, Séguéla, Laloa, Bouaflé. Une femme enceinte, punie de 2 balles dans le ventre. Un enfant de 9 mois, assassiné d'une balle dans la tête. Ce sera le commentaire d'Afrique 50 sur les images que nous avons filmées au long de cette piste hallucinante laissée par la colonne Folie des Jardins, nom du commandant de la colonne. Sur le terrain, nous avons d'abord pensé qu'un administrateur était atteint d'une folie sanguinaire. C'est seulement à travers les explications à Abidjan de Wedzin Koulibaly que nous avons compris que ces crimes dont nous avions pu filmer les victimes étaient non pas folie individuelle, mais méthode de gouvernement. Ces images de régions dévastées par la répression m'avaient, au sens littéral, rendu fou de rage. J'étais bien sûr persuadée, sans qu'un doute puisse m'effleurer, qu'il était non seulement de mon droit, mais de mon devoir de filmer pour ensuite pouvoir témoigner par le film. J'espère que vous êtes toujours sur Canal Sud. On continue. Ça se corse. La main dans le sac. En arrivant à Abidjan, j'avais voulu rencontrer le gouverneur pour lui dire quelles images j'avais ramenées. On m'a fait poireauter dans les bureaux, dans les couloirs. Ça m'avait mis la puce à l'oreille. Je suis rentrée en catastrophe à Trècheville, quartier populaire d'Abidjan, où j'avais laissé mes bagages dans une chambre mise à ma disposition par Wedzine Koulibaly, le responsable local de la Ligue de l'enseignement. Dans ma chambre, j'ai trouvé un blanc, la main dans le sac, c'est le cas de le dire. Dans ce sac, mon sac, y sortaient pellicule, papier, caméra. Je lui ai tapé dessus sans lui demander au nom de qui ou quoi il agissait, sans lui laisser non plus d'ailleurs le temps de me le dire. Il a basculé dans notre empoignade par la fenêtre. Nous étions au premier étage. Il paraît qu'il s'est cassé le bras. Je n'ai pu vérifier. Il s'est relevé et est parti en courant, tirant des coups de feu en l'air. Moi, j'avais récupéré ma pellicule, mes papiers, ma caméra. C'est seulement en entendant les coups de feu que je me suis dit que ce monsieur était peut-être un policier, ce que me confirma Wedzine Koulibaly quelques minutes plus tard, en me collant dans la malle arrière de sa voiture. Il convenait de quitter Abidjan au plus vite. En particulier parce que la chambre d'où j'avais expulsé l'inspecteur appartenait à Oufouette Boigny et que la bagarre contre l'inspecteur était une bonne occasion d'inculper le président du RDA, mon logeur. Alors, dans la malle arrière, et direction frontière du Ghana, je serais à coup sûr plus en sûreté chez les Anglais, le Ghana étant, comme on sait, un pays anglophone, depuis la colonisation. J'allais y retrouver très brièvement un monsieur très cultivé qui m'envoyait quelques mois auparavant des articles sur l'art du Bénin pour le musée vivant dont j'étais secrétaire de rédaction bénévole et qui s'appelait Kwame Nkrumah. Mais je devais devenir brûlant. Nkrumah avait visiblement hâte de me faire remonter vers le Burkina Faso, tout au nord du Ghana. Et nous n'eûmes pas de discussion sur l'art. Certains doivent se dire, il exagère, Vautier, la valse des futurs des présidents. François Mitterrand intervenant en tant que ministre de la France d'Outre-mer, avec un décret Pierre Laval, ça en fait un. Oufouette, mêlé au tournage en tant qu'hôte et co-inculpé, ça fait deux. Nkrumah prenant le relais au Ghana, trois futurs présidents dans une petite histoire de court-métrage interdit, ça commence à faire beaucoup. Et il y en aura bien d'autres. Je serai pris en charge par Modibo Keïta, futur président du Mali, qui me cachera dans le quartier des femmes de sa concession à Bamako. Puis protégé par les amis de Gabriel Darboussier. Gabriel Darboussier était fils du marquis Darboussier, franco-sénégalais. Il ne sera pas président, Gabriel, mais jouera un rôle très important dans le parti africain de l'indépendance. Et la première du film Afrique 50 aura lieu à Paris, sous la présidence d'un garçon qui était, lors de cette projection, secrétaire général adjoint de la Fédération syndicale mondiale, et qui deviendra le président de la République de Guinée, un certain Sékou Touré. Voilà comment un petit court-métrage peut être considéré par les responsables politiques comme une chose importante.
Nous avons fait de la haine un ami, on l'a brandi à tout va en tout nom, car l'autre fait peur comme un bon vieux mormon. Un marabout n'est jamais la bonne sœur. J'ai du respect pour les gens quels qu'ils soient, qu'ils lisent la Bible, le Coran, la Torah. L'égalité c'est peut-être aussi ça, une main de Fatma, une étoile, une croix.
Peut-être est-ce le moment d'accrocher un petit intermède philosophique. Je reconnais que pendant ce tournage africain, j'ai accumulé un nombre assez extraordinaire de conneries et que, avec un minimum de dissimulation, d'hypocrisie, j'aurais pu filmer mieux et plus efficacement. J'avais 21 ans et je croyais en ce que je faisais. Peut-être l'idée que si je pliais, si j'acceptais de me taire devant ce que je considérais comme le fascisme colonial, les autres seraient morts pour rien. Mes copains du maquis, Roger, Nona, Jean-Ma. Toujours est-il que, seul maintenant, Raymond ayant regagné la France, il me fallut l'appui d'un nombre incroyable de complices pour que la caméra, la pellicule et moi-même puissions rejoindre l'Hexagone. J'ai traversé tout le territoire du Ghana, du sud au nord, sans rencontrer un seul fonctionnaire anglais et sans que l'on me demande une seule fois mes papiers. Grâce à l'organisateur Nkrumah et à son parti. Rentré discrètement au Burkina, j'ai été arrêté à Bobo-Dioulasso par la police coloniale, mais libéré par une manifestation de masse qui a envahi les locaux du commissariat où j'attendais sous bonne garde la venue du directeur de la sûreté du territoire. Impossible de ne pas voir dans cette libération qui a aussi libéré ma caméra, saisie, la main de Wedzine Koulibaly, ensuite bloc de la solidarité africaine. J'ai été une dizaine de jours en consigne dans une case des morts d'un village d'Ogon, une de ces cases où se retirent à mi-falaise les vieux d'Ogon qui choisissent l'heure de leur mort en fonction de leur sentiment de n'être plus utile à la collectivité. J'ai rejoint Bamako sous un chargement de légumes et j'y ai été caché chez Modibo Keïta, le futur président, ou plus exactement dans sa concession secteur femme. Et j'ai pérégriné dans une voiture de gouvernement général de l'AOF, sans l'autorisation du gouverneur, mais avec la complicité de son chauffeur. Ce dernier, militant clandestin du RDA, signale à Modibo Keïta qui rentre à vivre sur Dakar. Modibo saisit l'opportunité de me rapprocher de Dakar et me fourre une fois de plus dans la malle arrière. Mais au bout de quelques kilomètres, le chauffeur s'arrête et me fait monter près de lui, après m'avoir invité à endosser l'uniforme très officiel qu'un administrateur des colonies avait laissé dans une petite valise, uniforme qui comprenait une casquette cernée de feuilles dorées, ce qui est l'insigne, si je ne me trompe, des préfets, casquette trop petite pour mon crâne de breton et un pantalon d'obèse mais sans ceinture. Assis, j'étais à l'aise, mais lorsqu'à un arrêt j'ai voulu me dérouiller les jambes en faisant quelques pas sur la place du village, je me suis retrouvée avec le froc à hauteur des chevilles devant une dizaine de notables africains qui, par respect du blanc, n'osaient même pas rire. Mais ils ont dû se rattraper depuis. À l'arrivée à Dakar, je suis prise en charge par Gabriel Darboussier. Mais lui-même fait l'objet d'une surveillance telle qu'il préfère me placer chez des amis sûrs, dans un quartier populaire. Et là, la poisse, crise de paludisme qui me cloue au lit. Demi-poisse seulement, je suis chez Fatou et Danou, des jumelles toutes deux infirmières. Arrive un inspecteur de police africain qui avertit les deux sœurs que c'est lui qui est chargé de m'arrêter. Bien sûr, il ne le fera pas. Il est boy scout et il sait que je suis venue avec une délégation des éclaireurs de France. La solidarité ratisse large. Mais c'est le commissaire blanc qui détermine les quartiers que l'on doit fouiller pour me trouver. Et le lendemain, aux aurores, ce sera ce quartier-là. Alors, nécessité de m'évacuer. Transbahuter un blanc dans un quartier habité uniquement par des Africains, c'est difficile à concevoir dans la plus complète discrétion. C'est pourtant ce que vont réaliser mes infirmières, en me faisant mourir. Parce que quand on transporte un mort, ça se fait publiquement, bien sûr, sur une civière portée sur des épaules viriles. Mais le drap blanc recouvre le corps. On ne voit ni la couleur des pieds, ni la couleur de la tête, ni la raideur des cheveux. Et c'est ainsi qu'à Dakar, à grand renfort de cris de pleureuses, j'ai été enterrée 3 soirs de suite, simplement pour changer de quartier. C'est encore le petit inspecteur Boy Scout qui, après nous avoir avertis des quartiers à éviter pour cause de vérification, me joindra pour me dire « Toute l'administration est inquiète parce que tes copains du maquis en Bretagne ont télégraphié qu'ils allaient venir te chercher avec armes et bagages sur un bateau breton si le gouverneur général ne te laisse pas rentrer en Bretagne. » Et cette solidarité-là aussi était réelle. L'idée que j'étais retenue en Afrique pour avoir violé un décret Pierre Laval avait en effet mis sans dessus-dessous les rescapés du groupe du maquis du clan de Quimper, seul groupe de jeunes cités à l'ordre de la nation pour fait de résistance. Car, en 1943, alors qu'il n'avait que 15 ans, René Vautier avait entrepris des actions de résistance à l'occupation allemande avant d'être chargé de la propagande et de l'information au sein du groupe de résistance de Quimper. Mon frère, au sein du groupe, se démenait comme un beau diable. J'avais les répercussions de cette action par notre petit inspecteur. Ils ont appris au gouvernement général que vos copains de maquis ont pris contact avec des pêcheurs bretons pour qu'ils les amènent sur leur bateau au Sénégal. Comme ils ont été en contact entre eux pendant la guerre, les pêcheurs seraient d'accord. Il paraît que vos copains n'ont pas remis toutes les armes qu'ils ont prises en 1944 sur les Allemands faits prisonniers. Alors quand ils disent « avec armes et bagages », on se demande ce que ça veut dire.
Ça va changer un jour. L'habitant plante le maïs, c'est pour le gros marchand. Reste gros gens comme devant, pas le droit de dire comment. Taureau du Honduras, c'est bon pour le Texas. Pour les petits, y'a que les os. La viande, c'est pour les gros, c'est pour tous les bandits, ceux du même acabit. Diamant de Bokassa, ça c'est secret d'État. Faut pas poser de questions quand on est juste un pion.
Finalement, décision au plus haut niveau. On me laisse prendre le paquebot pour Marseille en janvier, mais sans caméra et sans pellicule. Pas grave, caméra et pellicule sont déjà sur le chemin du retour. C'est par l'intermédiaire de Gabriel Darboussier que j'apprends le compromis. Il me pousse à l'accepter, en me disant que les milieux des colons blancs sont très montés contre moi. Je me retrouve donc sur un paquebot de la compagnie Paquet, avec un billet de 4e classe, seul blanc dans la cale, au milieu des soldats indigènes, que l'on emmène vers la France avant de les expédier vers l'Indochine où la guerre fait rage. J'ai bien évidemment appris, lors de mes pérégrinations le long du Niger, quelques mots de Dioula, langue proche du Bambara, et quelques mots de Dogon. Les soldats africains, mes commensaux de cale, sont en majorité Bambara ou Dioula. La conversation s'engage, aux grandes dames des officiers français, inquiets de ce que je peux dire, des propos subversifs que peut tenir ce cinéaste qui leur a été présenté comme un contact dangereux pour la troupe. Et ils vont obtenir que le commandant du paquebot me propose une cabine hors classe. J'étais crevée. J'ai accepté. À l'arrivée, invasion de la cabine par les douaniers et les policiers, recherche de la caméra, de la pellicule. Une flèche qui se trouvait au fond de mon sac se fiche dans la main d'un policier trop pressé. Voilà qui risque d'assombrir mon retour en France. Mais là encore, la solidarité des douaniers m'a permis de rejoindre Paris. Les douaniers présents ont tous témoigné que le policier s'était blessé sur la pointe de flèche en fouillant le sac au mépris des précautions les plus élémentaires. Oui, les fouilles, ça se fait avec des gants. Pendant le tournage et le retour, solidarité donc sur toute la ligne. Et la question que je me pose est la suivante. Si j'avais adopté pour faire ce film la voie de la dissimulation, de l'hypocrisie, est-ce que cette chaîne d'amitié et de complicité aurait existé? Même sur le plan de l'efficacité cinématographique, je me demande si ce côté un peu fanfan la tulipe n'a pas été utile. Je crois qu'à l'époque, j'étais incapable de dissimuler mes opinions, mes jugements, mes sentiments. Alors, peut-être ai-je mieux fait en n'essayant pas de les cacher. Si l'on déclenche la haine d'un côté, en période de crise, on doit, je pense, susciter de l'autre côté l'amitié, la solidarité. Il suffit de bien choisir son côté. La censure aime l'ombre. Dès que l'on essaie de faire son travail au grand jour, on la met dans une situation difficile. La pellicule impressionnée en Afrique était rentrée en France, illégalement bien sûr, par 33 canaux différents. La solidarité. Pas une bobine ne s'était égarée. Pour ses porteurs bénévoles, chacun ayant été mis au courant de ce qu'il transportait, le film à venir devenait un peu aussi leur film. C'était de la pellicule négative, et à l'époque, les laboratoires étaient surveillés. Mais la complicité des techniciens du laboratoire allait jouer à fond. Jean Bagueste eut l'idée géniale d'accrocher les bobines africaines au bout de bobines de films pornographiques. Ceci était interdit, mais la direction du labo versait un bakchiche aux policiers chargés de contrôler les développements pour qu'ils ferment les yeux. Et les images anticolonialistes furent développées, étirées, accrochées à la queue des pornos. Tout fier, j'ai ramené les négatifs développés et les rushs au siège de la Ligue de l'enseignement, mon employeur, et les y ai laissés en attendant un premier visionnage. Les inspecteurs de police sont arrivés quelques heures après moi. Ils ont exigé du président de la Ligue la remise de la totalité de la pellicule impressionnée en Afrique occidentale française par le sieur Vautier en violation du décret du 11 mars 1934 réglementant les prises de vue cinématographiques en Afrique noire. Le respect de la police est bien ancré dans une certaine gauche française. Sans hésitation ni murmure, le président de la Ligue de l'enseignement a fait déposer entre les mains de la justice l'ensemble des positifs et des négatifs. Lorsque, alerté, je me suis présenté rue Récamier au siège de la Ligue, ce fut pour m'entendre dire « Le président est furieux, il ne veut pas d'histoire de ce genre autour de la Ligue. Si jamais tu réussis à récupérer la pellicule, inutile de la ramener ici, tu peux en disposer, le président ne veut plus en entendre parler. À toi de prendre tes responsabilités, mais ne remets pas la Ligue dans le coup, le président te désavouerait. Tu comprends, c'est la première fois qu'il y a une saisie à la Ligue, ça l'a traumatisé. » Ma réaction a été d'aller protester au ministère de l'Intérieur. Ballotté de bureau en bureau, j'ai finalement été cueilli par deux inspecteurs qui m'ont emmené dans une petite salle équipée d'un appareil de projection 16 mm. Les positifs étaient là, dans leur emballage Kodak, des bobines de 30 mètres. Un des inspecteurs les chargeait, les projetait, l'autre me faisait signer un papier sur lequel je reconnaissais la paternité des images, papier qu'il fixait sur la bobine. À midi, les inspecteurs avaient faim. On se donne rendez-vous pour 14h. Je reviens avec un sac de sport plein de cartons enveloppes Kodak pour bobines de 30 mètres. Et comme le rythme est pris et la surveillance assez relâchée, je signe sur des boîtes vides et je mets les boîtes pleines dans mon sac de plage. C'est ainsi que j'ai pu récupérer 21 bobines positives sur les quelques 60 qui avaient été impressionnées. Et c'est avec ces 21 bobines que j'allais entreprendre le montage. Vous êtes toujours sur Canal Sud avec René Vautier en Afrique. Et il est de retour en France 2 semaines plus tard. Un inspecteur du commissariat d'Argenteuil, il avait élu domicile chez sa mère, institutrice à l'école maternelle Jean Jaurès et logée dans l'école. Un inspecteur, donc, était chargé de réunir les preuves établissant que René Vautier montait dans des bâtiments scolaires un film interdit à partir de pellicules saisies qu'il détenait illégalement. L'inspecteur, pour réunir ses preuves, trouva une méthode peut-être originale, mais à coup sûr pas très fatigante. Il acheta à grand renfort de bonbons les services du fils de l'institutrice habitant sur le même palier que Léonie, ma très chère mère. À charge pour l'enfant de fouiller nos poubelles et d'y récupérer tous les morceaux de pellicule qu'il pouvait y trouver. Il devait mettre ses bouts de pellicule dans une enveloppe et donner l'enveloppe à l'inspecteur chaque vendredi. Celui-ci, à chaque fois, renouvellerait le sac de bonbons. Le gosse n'avait rien eu de plus pressé que de me raconter le marché. Je l'avais vivement félicité et poussé à accepter. Et chaque vendredi, à 18h, nous préparions ensemble l'enveloppe en y mettant des bouts de pellicule coupés dans de vieilles actualités de Gaumont. À 18h30, l'enfant échangeait l'enveloppe contre le sac de bonbons. L'inspecteur repartait, content, avec ses preuves. Et le petit et moi partagions les bonbons, moitié-moitié. Le montage des images africaines se faisait dans la salle de bain de Léonie, très discrètement. N'ayant pas de colleuse, je disposais de 4 aiguilles piquées sur un morceau de bois, une lame de rasoir pour gratter et le pouce pour presser la pellicule en attendant que ça sèche. Je manquais du matériel le plus élémentaire, mais pas de bonbons. Au bout de 4 semaines, j'avais un montage de 25 minutes environ. Première alerte, une voiture de police dans la cour de l'école. 6 policiers en tenue et l'inspecteur à la porte de l'appartement. Léonie, poids plume, tend les bras en croix devant l'autorité, style « vous devrez me passer sur le corps ». Mandat de perquisition ? Nul n'en a jamais rien su. Léonie affirme qu'ils lui ont tendu un papier, qu'elle a refusé de lire, de peur qu'il soit légal. Et moi, passé par une fenêtre sur le toit de l'école maternelle, montage sous le bras, j'ameutais à grands cris la population contre cette violation par la force publique de l'école maternelle. Et ça répondait. Il faut vous dire que le quartier Jean Jaurès est un quartier rouge et que ma mère et moi y étions honorablement connus. 10, 20, 100 personnes de mon toit. Je tiens meeting pour la liberté d'expression. Léonie, les bras écartés, préserve l'intégrité des lieux. Bref, j'ai dû redescendre pour éviter que les policiers ne se fassent écharper. Ils sont repartis, hués et bredouilles. Et j'ai pu aller plaquer ma pellicule ailleurs.
Toi la gentille petite fille voilée, qu'a fait ses voeux sous un ciel étoilé, qu'a prêté serment de servir ton Dieu, comme une enfant de chérir ton vieux. On voudrait en faire de toi la cata, ignorante, insolente et soumise. N'écoute pas ce que disent les gens, eux qui ne croient qu'au pouvoir de l'argent. Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie?
Le montage était terminé, restait la sonorisation. Pour un Breton, la solution à des problèmes de ce genre se trouve généralement en mer. J'ai pu m'embarquer comme matelot de pont pour quelques campagnes en mer d'Irlande. Et avec les parts de cette pêche, j'ai entrepris la sonorisation. Mais apprenant que Léonie avait été embêtée par l'inspecteur qui continuait son enquête, je reconnais que j'ai frisé la provocation. J'ai joint un groupe de musique très connu à l'époque, l'orchestre africain de Keïta Fodéba. Je leur ai expliqué mon problème. Et tout le groupe, avec ses balafons, ses tbels, ses flûtes, ses tam-tams, s'est mis à ma disposition. J'ai contacté la CGT d'Argenteuil, qui gérait la Maison du Peuple, dont le parc se trouvait juste en face de l'annexe du commissariat de police. Et tout s'est arrangé. Le premier film anticolonialiste français serait sonorisé en plein air, en public, par un orchestre africain, sous la protection de la classe ouvrière et face au bureau du policier chargé de le saisir. Ce fut une vraie fête dans le parc de la Maison du Peuple. Un après-midi ensoleillé de février, l'appareil de projection sur l'herbe et l'écran sous un arbre. L'orchestre de Keïta Fodéba donnait un véritable concert. La population vint de plus en plus nombreuse au cours de l'après-midi et le soir tombant, on projeta le film. Une fois pour que les musiciens le voient, une deuxième fois pour qu'ils placent leur musique, une troisième fois pour qu'on enregistre, dans le silence religieux de quelques 6 ans argenteuillais. Pas une anicroche à l'enregistrement et pas d'intervention policière. Nous avions donc la musique, restait à enregistrer le commentaire et à mixer. Gérard Philippe avait accepté de prêter sa voix, mais un contretemps nous empêcha d'utiliser la salle d'enregistrement à la date prévue. Pris ensuite par des déplacements, il me présenta un jeune acteur pour le remplacer, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. J'appris plus tard par Gérard Philippe lui-même le déroulement des faits. la veille de l'enregistrement. Le jeune acteur qu'il m'avait présenté et qui avait accepté de lire le texte du commentaire avait reçu la visite d'un monsieur bien intentionné, ami de la famille et policier de surcroît, qui lui avait montré, à titre d'exemple et pour bien lui faire comprendre ses responsabilités, pour lui rendre service en quelque sorte, il lui avait montré un jugement prononcé des années auparavant par un tribunal de Grenoble condamnant conjointement le réalisateur-opérateur et l'acteur-commentateur d'un film pornographique. « Je sais bien que ce que vous devez enregistrer n'est pas de la pornographie, jeune homme, mais croyez-moi, c'est pire !» Cet avertissement avait suffi pour que le lendemain, le studio d'enregistrement que nous avions retenu reçoive un message du jeune acteur nous prévenant qu'il avait quitté Paris avec une extinction de voix. J'ai dû, au pied levé, dire le commentaire moi-même, en improvisant un peu, car notre déserteur avait gardé le texte. Il paraît que Gérard Philippe, qui ne passait pourtant pas pour vindicatif, ne lui a plus jamais adressé la parole. « Pour lui, j'ai une extinction de voix chronique, » disait-il. Me voilà donc en possession d'une copie standard 16 mm, une copie projetable, sonorisée, ce qui me semble très important. J'entreprends donc de faire vivre mon premier fils à Fric 50, en le diffusant sans visa, bien sûr. Inutile de le présenter devant la commission de censure, légalement, un film saisi n'existe pas. On ne peut donc lui accorder un visa. Mon intention était de faire voir publiquement et d'obliger ainsi le gouvernement à me poursuivre sur le film même et son contenu, à me faire un procès qui remplacerait les poursuites fragmentaires d'intimidation, me semblait-il, qui me collaient au basque. Et lors de ce procès global, je me ferais fort de prouver chaque accusation portée dans le film contre le régime colonial et même d'en rajouter. N'oublions pas que le film avait été monté avec seulement le tiers de la pellicule impressionnée. Par où commencer les projections? Pour moi, pas de problème. À Quimper, la ville de ma jeunesse, Quimper qui fut le centre d'opération du clan René Madec et de notre groupe de jeunes résistants, était, en 1950, la ville-caserne où l'on donnait le dernier coup de pied au fion aux unités d'élite parachutistes et commandos de marine avant de les expédier faire la guerre à Ho Chi Minh. Y projeter publiquement dans ce contexte le premier film anticolonialiste pouvait sembler une entreprise complètement suicidaire. Mais c'était la ville de mes copains de jeunesse, de ceux aussi pour qui je faisais du cinéma. Nos morts de 20 ans. Projeter le film à Quimper, c'était obliger les jeunes à choisir ou la résistance d'hier ou la légalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire le maintien du colonialisme en Afrique et la reconquête de l'Indochine. La réponse des jeunes quimpérois fut pratiquement unanime. L'Union des organisations de jeunes avait obtenu, sans trop préciser l'usage qu'elle comptait en faire, la location de la salle de gymnase municipal pour la soirée. Une réunion des mouvements de jeunes avait eu lieu pour assurer la sécurité de la projection. Mais à la caserne La Tour d'Auvergne, des sous-officiers instructeurs, parachutistes, avaient annoncé que si la projection de ce film anti-français, qu'ils ne connaissaient que par ouï-dire, avait lieu, ils y amèneraient leurs recrues pour qu'ils puissent se faire la main avant d'aller en Indochine. La soirée fut assez épique. Il y eut non pas une projection, mais deux à la file. Pour la première, environ 300 spectateurs dans la salle, et autant à l'extérieur pour assurer la projection, pour assurer la protection. Les officiers et sous-officiers parachutistes amenèrent une vingtaine de bonshommes, et courageux mais pas téméraires, ils n'allèrent pas plus loin que l'affrontement verbal. Sarcasme, puis éparpillement dans les bistrots voisins. Et lorsque les spectateurs sortirent, ils prirent la relève dans la rue des gardiens qui s'engouffrèrent dans la salle pour être à leur tour spectateurs. C'était, à ma connaissance, la première fois qu'on voyait côte à côte dans un service d'ordre des jeunes scouts de France auprès de jeunes communistes, des gars des auberges de jeunesse auprès des militants de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Et c'est Joe, un ancien du clan éclaireur de France, gaulliste invétéré, qui tira la conclusion. René a fait des images, on a bien le droit de les voir, et personne ne peut nous en empêcher. La presse régionale rendit compte du défi des jeunes quimpérois et des projections eurent lieu, avec le même succès, à Brest, à Lorient, à Saint-Brieuc, à Rennes. Tout se jouait sur le rapport de force entre ceux qui désiraient voir et ceux qui voulaient leur interdire. Partout, les premiers furent de loin les plus nombreux. Pour multiplier les projections, je fis savoir à toutes les organisations qui avaient participé à l'appel, diffusé en soutien de la projection de Quimper, que chacune d'elles pouvait se procurer une copie 16 mm au tarif laboratoire, sans aucun droit supplémentaire à payer. Et Afrique 50 fut ainsi diffusée, sans visa ni existence légale, pour la plupart des mouvements de jeunesse. Il fut diffusé en 82 copies au total par la JOC et par Monde Ouvrier, comme par l'Union de la Jeunesse Républicaine de France, par la CGT, comme par l'Union Rationaliste, et par une amicale de prêtres ouvriers. Le film put ainsi toucher un public assez large. Malgré son interdiction, il a été vu à l'époque par 350 000 à 400 000 spectateurs, c'est-à-dire bien plus que la moyenne des films autorisés. Mais je n'obtins pas le procès public que je cherchais. La riposte fut plus sournoise et témoigna de cette union sacrée de toutes les branches du pouvoir pour punir les trublions. Alors le jugement, je l'insérerai sur la page de l'émission avec le podcast parce que le temps tourne, mais je préfère vous lire une réaction anticolonialiste conséquente.
Tu me prends tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris.
En 1989, j'ai été contacté par Intermédia, société qui achetait les droits des films français dont la projection dans les ambassades à l'étranger serait susceptible de servir le prestige de la France. Une commission du ministère des Affaires étrangères avait chargé Intermédia de préparer un contrat pour que je cède les droits d'utilisation du film dans le secteur des ambassades. La commission pensait qu'il était peut-être utile pour le prestige de la France de faire des projections du film, en particulier dans les capitales africaines, car il montrait que dès 1950, il y avait eu en France une réaction anticolonialiste conséquente. Il était politiquement important de montrer dans les pays africains qu'un sentiment anticolonialiste existait en France dans l'immédiate après-guerre. Les gens d'Intermédia avaient une copie qui avait dû être saisie quelque part et la commission l'avait vue. Ils me proposaient de refaire un négatif à partir de leur copie un peu détériorée, ce qui représentait un investissement important que je n'aurais pas pu faire. Ils me disaient que je resterais propriétaire du négatif et que je pourrais diffuser le film moi-même. Ils me demandaient simplement le droit de tirer une copie pour la diffusion dans les ambassades. Comme j'hésitais, ils m'ont dit que ce n'était pas parce qu'un petit fonctionnaire m'avait fait des ennuis 40 ans auparavant qu'il fallait que je rechigne quand on me proposait un nouveau négatif. Je leur ai demandé de me signer un papier, disant que le négatif continuerait de m'appartenir, que j'aurais le droit de tirer des copies et que les droits d'auteur me seraient versés. Après quoi, je leur ai dit le nom du petit fonctionnaire qui avait appliqué le décret Pierre Laval au nom duquel on avait détruit des négatifs du film. Ce petit fonctionnaire était le ministre à la France d'outre-mer de l'époque et il s'appelait François Mitterrand. Et cet accord avec Intermédia s'est passé pendant le deuxième septennat du dit François Mitterrand. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.